Avec Félix Mathieu, on en parle dans la presse et sur les réseaux. Ça y est, le gouvernement est au complet.
Oui, il aura fallu attendre 3 semaines entre la nomination des ministres et celle des 11 secrétaires d'État au gouvernement Castex. Maintenant que les secrétaires d'État sont tombés, comment trouver une raison de se lever, écrit un journaliste de Marianne sur Twitter, Louis Osalter, qui visiblement a trouvé le suspense insoutenable,
à moins que ce soit ironique.
Un autre utilisateur, Louis, se demande si ça sert à quelque chose finalement de nommer des secrétaires d'État alors qu'on s'en est passé pendant 2 voire 3 semaines. En tout cas, pour le quantitatif, on serait tenté de dire ça valait le coup d'attendre, parce que niveau nombre, on est servi en comptant tous les ministres et secrétaires d'État. Désormais, le gouvernement Castex compte désormais 42 membres en plus du Premier ministre.
C'est pas mal.
Le plus pléthorique même depuis le gouvernement Raffarin.
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
Il avait le sens de la formule. Hein.
Pour la montée, la pente, ça ne roulera pas léger. Hein. Le retour des gouvernements pléthoriques relève donc Le Monde et Libération, un adjectif pléthorique qui revient beaucoup. On approche les effectifs donc des gouvernements aussi Rocard, Juppé et Raffarin, donc 42 membres, 43 en comptant le premier d'entre eux. Un gouvernement qui va nous coûter un pognon de dingue, écrit un tweetos, quand un autre, Alexis, ajoute « La France dénombre pas moins de 42 ministres et secrétaires d'État. Pour rappel, l'Allemagne n'en compte que 15 ministres fédéraux. L'État obèse plus que jamais, lui aussi, en marche. » Et d'ailleurs, beaucoup ressortent cette petite phrase du candidat Macron. Oui. « Je constituerai un gouvernement de 15 membres maximum, très ramassé. » Bon, voilà, c'était en mars 2017.
Il s'est un peu loupé sur ce coup.
Les phrases d'avant. Mais justement, malgré ces effectifs, Félix, la disparition du secrétariat à la lutte contre la pauvreté suscite pas mal de réactions sur les réseaux.
Oui, notamment celle de Florent Guéguin, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, qui interroge sur Twitter le sens de cette disparition. Quelle priorité à la lutte contre la précarité qui augmente dans le pays ? Autre tweet, un peu désabusé celui-là. Le plus ironique, c'est qu'on aura appris qu'il existait un secrétariat d'État chargé de la lutte contre la pauvreté seulement au moment où il a été supprimé.
Ouais, dingue. On passe aux unes de la presse. La nouvelle ruée vers l'or, voilà le gros titre des Échos.
Oui, à plus de 1 900 $ l'once d'or. L'or s'apprête donc à battre son record historique, plus 25% depuis janvier. Un phénomène dû à la crise économique, à la faiblesse du dollar et au taux négatif. Et puis, sur l'économie aussi, un restaurant courte paille du côté de Libération. Un restaurant courte paille avec un dossier sur les faillites en série, des faillites dues, selon Libération, aux acrobates de la finance. Camailleux, courte paille, André, la Halle, des dépôts de bilan qui sont l'aboutissement d'un système dangereux de rachat d'entreprises par endettement, une pratique qui en fait consiste à investir via l'emprunt sans fonds propres, donc ou avec très peu de fonds propres, mais ce qui suppose donc une rentabilité à court terme. Or, lorsque ça fonctionne pas comme prévu, eh bien les salariés sont bien souvent la variable d'ajustement, nous explique Libération.
Et puis on en a parlé il y a un quart d'heure sur Sud Radio, la loi bioéthique à la une du Figaro.
Et oui, le Figaro selon lequel la majorité impose sa loi en plein été, le projet de loi autorisant la PMA pour toutes les femmes, revient à l'Assemblée. Aujourd'hui, ses opposants voient dans ce calendrier une volonté de faire passer le texte en catimini, selon le Figaro. J'ai les épaules pour incarner la fonction. Ça, c'est des mots signés Michel Rubirola pour cette interview. La nouvelle maire écologiste de gauche de Marseille a décroché son téléphone en toute simplicité, explique La Provence, mettant en avant ses priorités comme la lutte contre le logement indigne et la rénovation des écoles. Michel Rubirola qui concède s'être senti envahi, un peu débordé les tout premiers jours de son mandat, explique La Provence. Un sentiment vite balayé, dit-elle dans La Provence. Un sentiment balayé, notamment grâce à son équipe.
Et puis on termine peut-être, on a le temps, allez rapidement, la une de l'équipe, un adjectif diabolique.
Oui, Fabio Quartararo, irrésistible. Merci, vous voulez que je le refasse? Quartararo.
Fabio Quartararo. Vous le connaissez maintenant, c'est bon.
Irrésistible, imperméable à la pression en MotoGP, le Niçois a dominé le Grand Prix d'Andalousie du début à la fin. Il commence à songer au titre mondial, écrit l'équipe. Fabio Diablo Quartararo qui pose à l'arrivée sur sa moto bras croisés en haut de la poitrine, une référence en fait Benjamin.
Kylian,
c'est vous qui m'avez appris, hein, je le reconnais,
un signe de reconnaissance de Kylian Mbappé. Effectivement, un beau clin d'œil de la part de Fabio Quartararo sur la ligne d'arrivée. Merci à vous Félix.
Merci, Félix.
Et on poursuit cette revue de presse Focus ce matin sur Sud-Ouest, et on est en ligne avec son rédacteur en chef. Bonjour Jean-Pierre Dorian.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Et à la une de Sud-Ouest ce lundi, c'est un mode de transport qui pourrait, vous le dites, revenir à la mode avec cette crise du Covid. Jean-Pierre, ce mode de transport, c'est le train.
Oui, absolument. Un secteur qui a souffert comme les autres, évidemment, ouais, de la crise du Covid, vous venez de le dire. Mais on a beaucoup, autant on a beaucoup parlé à la sortie de cette crise du plan de relance pour l'automobile, du plan de relance pour l'aviation civile, évidemment, et ouais, l'aéronautique en général, autant on avait pour l'instant passé un peu sous silence le plan nécessaire à la SNCF, qui était déjà dans le dur avant cette crise, qui est pas si, ça n'est pas si mal sorti, même si la SNCF estime à peu près 15% ses pertes là au moment des grands départs, au moment de l'été, évidemment, avec les rebonds du Covid, on va dire. Mais c'est surtout en partant de la déclaration du chef de l'État le 14 juillet, où il avait beaucoup été question des trains, que l'idée de ce fait du jour est venue chez nous, parce qu'on a bien senti et on le sent depuis que le gouvernement, s'il se veut plus écolo, qu'il y en a peut-être un moyen en termes de transport de renouveler un petit peu la gamme. Alors il y a évidemment beaucoup causé, ce qui fait beaucoup débat, c'est la suppression de ces navettes entre les grandes villes de France et Paris. Le Bordeaux-Paris, pour nous, étant un exemple évidemment frappant, ouais, la navette Air France, qui est concurrencée par le fait que désormais le train met Bordeaux à 2 heures de Paris. Donc ça, c'est tout bon, on va dire, pour le rail et la SNCF. Et on sent bien aussi la volonté chez le gouvernement, c'était dit, ça a été affiché, de relancer les trains de nuit, qui sont un autre moyen de transport moins énergivore.
Qu'on avait un peu abandonné à une époque et qui redeviennent finalement complètement à la mode.
Exactement, totalement abandonné même, parce qu'on était pensé... C'est un peu ce que notre fait du jour met en valeur aussi. Il y a eu une époque où il y avait eu jusqu'à 550 gares en France qui étaient desservies par des trains de nuit. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 lignes en France de trains de nuit. Donc, c'est pour dire que c'est complètement tombé en désuétude et ça doit être relancé. C'est clairement affiché par le gouvernement. Comme aussi les petites lignes, la question des transports sur les petites lignes va être un enjeu des prochaines années. Et donc, au milieu de tout ça, un plan de relance pour la SNCF, qui aura son importance dans le combat écologique, dont Jean Castex dit lui-même qu'il est son combat pour les 600 jours à venir et au-delà.
Ouais, effectivement, c'est un objectif important. Il le redit encore ce matin. On parle, oui, effectivement, d'un plan à plusieurs milliards d'euros pour la SNCF. À la une aussi de Sud-Ouest ce matin, vous avez été à Ourthe dans un poste CRS-MNS. Ce sont les CRS qui surveillent les plages. Et j'imagine qu'avec le Covid, ou la Covid, dit-on, 19, ça change pas mal de choses pour eux.
Oui, absolument. Alors, ce qui ne change pas, c'est qu'ils sont toujours là, toujours en veille.
Bien sûr.
Ce qui changeait, c'est que le mois de juin avait été un peu l'après confinement ou le déconfinement, un peu comme on veut, avait été particulièrement sur nos plages atlantiques à cause probablement des gens qui avaient fait preuve d'imprudence et dans la libération qui avait suivi le confinement, on va dire. Il y avait eu pas mal de décès sur nos plages, 5 morts sur toute la côte atlantique. Donc le CRS avait une forme de pression, on va dire ça comme ça. Ils l'ont d'autant plus que là, ça continue d'être le cas, là où les estivants sont présents, ils ont envie de lâcher un peu la pression, on va dire ça comme ça.
Bien sûr, ouais.
Et donc, comme ils sont, il faut bien le reconnaître, de moins en moins nombreux, les CRS, ils doivent être de plus en plus vigilants, tout simplement.
Ben oui, c'est à retrouver, effectivement, dans Sud-Ouest ce matin. Merci à vous, Jean-Pierre Dorian, et très bonne journée, et effectivement, à vous. Allez, 8h40, vous nous appelez 0826-300-300 pour agir à l'actualité, ou nous raconter tout simplement vos vacances, et c'est une auditrice que l'on rejoint, sans plus attendre.